Bravo, bravo, Arthur. C'était très intéressant. Justement, comment gérer ça? Est-ce que, moi j'ai une question tout de suite. Est-ce que cette souhait de maîtriser la distance se manifeste aussi pour les liens faibles que pour les liens forts de même manière? Liens forts sont les liens qu'on entretient entre fils et parents ou entre époux. Est-ce qu'il y a une différence de stratégie de maintenir la distance dans le cadre du noyau familial ou avec les autres membres du réseau que je qualifie de liens faibles, avec des amis, avec de la famille éloignée? Est-ce que
maintenir la distance est beaucoup plus compliqué pour les liens forts, enfin les liens familiaux. C'est beaucoup plus compliqué de raccrocher à sa femme ou alors d'éviter de lui parler trop longtemps.
Est-ce que cette stratégie de faire attention à ce qu'on parle avec sa femme fait partie et donc de courter la conversation, comme vous avez dit, ou se manifeste aussi dans ce type de conversation, dans ce type de lien?
Oui.
Oui. Ça, c'est intéressant.
Ouais, bonjour, c'est Mireille Manga. Moi, je suis désolée pour d'inverser la phrase. Je suis Mireille Manga, doctorante. Bon, Arthur, ce que moi, je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce que les Maliens développent cette stratégie d'évitement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont, pour la plupart, dans une situation précaire? Parce que quand j'observe un peu l'élite africaine en France, c'est-à-dire les Maliens, c'est pas ceux qui occupent, ils ne font pas partie de l'élite africaine en fait. C'est ceux qui font pour la plupart des petits boulots, balayeurs de rue et tout. Est-ce que c'est parce qu'en fait ils veulent cacher cette partie d'eux qui préfèrent développer des stratégies d'évitement, ou alors il y a d'autres raisons? Moi, je voudrais comprendre un peu, s'il te plaît.
Ouais, les Maliens de Montreuil que j'ai approchés, pour la plupart, sont ceux qui résident dans les foyers de travailleurs migrants. Du coup, c'est des populations précaires, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de sous à envoyer au pays. Donc c'est pour ça qu'elles développent ces stratégies-là. Ensuite, mais on retrouve aussi des comportements plus ou moins similaires dans les élites. Mais là, c'est plus un détachement par rapport au pays d'origine, et plus une volonté de s'intégrer, entre guillemets, dans le pays d'accueil qu'est la France. Oui, oui et non. Pour la plupart, oui. Ils mentent pas, mais ils ne disent pas. Voilà.
Aussi avec les mères et les pères, c'est cette situation. Ou avec les épouses, bon, on comprend. Avec les parents, aussi.
Non, ils ne disent pas, ou alors très peu. Aux candidats, par contre, à l'immigration, ils disent de plus en plus les vraies conditions sur place, alors qu'avant, ils avaient tendance à cacher. Mais les vidéos, les photos, par exemple, qu'on envoie au pays, c'est toujours les photos sur les Champs-Élysées en costume cravate. Mais...
D'accord. On les envoie par téléphone, les photos?
Par courrier.
Par courrier. Oui. D'accord.
Moi, j'avais juste une question, parce que je trouvais intéressant. Je me présente, je suis Soraya Beniato, animatrice multimédia. Donc, je suis au plus près des usagers des TIC. Alors la question, vous avez un petit peu répondu, parce que dans la description que vous faites, c'est quel type de population, au niveau de la population malienne, diplômée, pas diplômée, au niveau de la typologie de ce public-là. J'ai une question à savoir en proportion sur le nombre de personnes que vous avez interrogées, parce que je trouve que c'est intéressant. Et quels sont les lieux d'appropriation des TIC? Et en quoi, les TIC permettent un peu de recréer du lien, voilà. C'est des questions comme ça. Je sais pas si vous
pouvez répondre, mais... Sur la qualification, j'ai plus ou moins déjà répondu. Donc, c'est une population, donc, dans les foyers. C'est des petits boulots, c'est éboueur, c'est à la RATP ou concierge. Enfin, c'est des petits boulots. Ils sont faiblement qualifiés. Sur les lieux d'appropriation des TIC, c'est les structures telles que les taxiphones, les cybercafés, ou alors aussi à l'intérieur des foyers, il y a de plus en plus de structures qui se développent au sein des foyers des travailleurs migrants. Et sinon, c'est à l'échelle individuelle aussi, c'est le téléphone portable personnel, avec l'utilisation des cartes prépayées pour appeler vers l'Afrique. Et pour recréer du lien, ils sont comme une, il y en a beaucoup qui sont quasiment tous les jours en lien avec leur pays d'origine, mais, comment dire, les TIC, pour eux, ça les rapproche pas vraiment du pays, ils s'en sentent toujours éloignés, ils ne voient pas les constructions dans le village, ils voient pas comment grandissent leurs enfants, par exemple, ou très rarement, du coup, ils s'en sentent toujours éloignés. Et par ailleurs, pour reprendre aussi l'expression d'une sociologue australienne, les TIC, c'est quand même les technologies des jours heureux. Quand tout va bien des deux côtés, ça marche très bien, la communication à distance. Par contre, quand il y a des problèmes, là, ça marche beaucoup moins bien, et c'est le lien physique qui domine.
Parce que d'autres terrains empiriques peuvent vous montrer que quand il y a des difficultés, justement, et on appelle aussi, non? C'est le contraire, c'est un noyau de communication en ce moment-là. Donc, et je pense que il y a une communication liée, par exemple, à la maintien d'un lien. Il y a une communication aussi que je puis observer au moment où on transfère l'argent. On appelle une fois pour savoir l'argent est arrivé. Est-ce que vous avez sorti l'argent? Est-ce que je parle? Donc, il faut peut-être diversifier un peu les communications et les traiter aussi en fonction. Je pense pas que la communication est que pour les jours des fêtes.
Non, mais c'est là où elles sont vraiment bien appréciées.
Et si on regarde le travail de Chloé, qui n'est pas là, elle montre que certains villages, avec leurs migrants qui sont en France, ont créé des portails, des portails de leur village d'origine, sur lesquels ils ont fixé une caméra qui montre en temps réel l'image du village, vous voyez. Et donc, ils peuvent aussi se connecter à voir qu'est-ce que se passe vraiment dans le village. Je pense que on est dans cette situation maintenant, mais que comme il s'agit d'un environnement en permanent en mutation, on va voir différentes situations se créer. On verra
et
différents modèles qui vont naître. Pardon.
S'ils se les approprient.
S'ils se les approprient, bien
parce
sûr.
Parce que c'est pas justement, on a beaucoup parlé d'impact avant que je parle ici, et moi je trouve pas que c'est en parlant d'impact des TIC qu'on arrive vraiment à comprendre comment ça se passe. C'est plus une logique d'appropriation.
Oui.
Les TIC existent, mais si on n'en fait rien, ils ne servent à rien.
Donc, mais on parler peut parler d'impact, de l'impact sans l'appropriation?
Non.
Donc, parlons de réappropriation.
Parce que parler d'impact, ça voudrait dire qu'il y a un déterminisme technique.
Oui. Je vois bien.
Et si un déterminisme qui est à l'offre, il est plus humain que technique.
Oui. Je me situe aussi dans cette voie. Ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que vous avez montré justement ce qui peut gêner, la partie. J'ai trouvé aussi des situations où des jeunes filles sont parties à l'étranger, qui sont contrôlées le soir par leurs parents.
Ouais, s'il vous plaît. Bonjour. Catherine Gauthier, je suis sociologue à Saint-Étienne. J'ai fait mon doctorat avec Alain Tarius. Sur les mobilités géographiques, les circulations migratoires des migrants marocains entre la France et le Maroc. Donc moi, je me suis plus intéressée à la question des transports et de la grande circulation, facilité, entre guillemets, de circulation des familles, des entrepreneurs, etc., par voie routière, essentiellement. Je trouve que c'est votre confrontation est très intéressante dans le sens où... D'abord, ce qui m'amuse, c'est que ce soit un géographe qui pose la question des catégories sociales qui sont à l'œuvre dans la définition et la détermination de cette grande connectivité et le fait qu'il insiste sur une situation vers laquelle on tend. Et c'est vrai que depuis le début de la matinée, ce qui m'interpellait un petit peu, c'est comme on le fait quand on travaille sur la grande circulation migratoire, cette grande capacité à échanger, à circuler, on a tendance à, en tout cas quand on le dit, à montrer les choses par le haut. C'est-à-dire comment c'est au plus facile de faire aujourd'hui et comment ça marche au plus. Et je trouve que ce qui est intéressant de faire une fois qu'on a démontré ça, c'est de montrer cette grande hétérogénéité et cette grande stratification qu'il y a des situations. Et que vous montrez quand vous parlez, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, ça m'a fait penser aussi aux réflexions de Michel Peraldi à partir du Maroc aujourd'hui, sur cette frontière numérique et à quel point elle est hyper individualisée. Et je pense que c'est le cas de la connectivité aussi aujourd'hui. Et des situations migratoires, on voit bien que si les modèles ont changé aujourd'hui, c'est par ça, c'est par cette très très grande singularisation des parcours et des inscriptions sociales, géographiques, économiques. Alors la question que je voulais poser par rapport à cette remarque, c'était dans les travaux que vous nous dont vous nous avez parlé. Est-ce que les derniers travaux que vous avez évoqués, j'arrive plus à me souvenir.
Sur Wernat, la connectivité, la mobilité.
Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous avez établi juste, enfin, est-ce que vous essayez de faire jouer des critères? Oui, vous disiez que justement vous aviez fait une trace, à la fois fait des approches en termes qualitatifs.
Oui.
Et en termes quantitatifs par le suivi à la oui. traçabilité de ces mobilités, comment vous avez fait intervenir les catégories sociales, les rapports de genre, je trouve aussi cette question des rapports familiaux extrêmement intéressante par rapport à différents critères en termes de période de migration, de cause migratoire, tous ces paramètres qu'on fait jouer dans l'analyse des migrations. Merci.
Vous avez vraiment une vision de ce qu'on fait là. Oui, on a tracé, si vous voulez, les grandes lignes d'une vision renouvelée peut-être, ou en rupture par rapport à la sociologie migration, où le migrant déraciné était l'héros éponyme et qui a fait carrière 150 années, et qui se manifestait surtout sur l'idée de la double absence. La double absence, c'est une théorie d'Abdelmalek Sayah de Bourdieu, qui disait que le migrant a coupé ses racines dans les pays d'origine et n'arrive pas à s'intégrer dans les pays d'accueil et que c'est le modèle, en fait, qui a fait carrière. Moi, je pense aujourd'hui, comme Tarus d'ailleurs aussi, qu'on est dans le modèle de l'entre-deux et que les technologies ont fluidisé, ont permis cette fluidisation de la circulation. Et que la mobilité aujourd'hui, c'est pas seulement du déplacement de A à B, il s'agit d'une mobilité généralisée. Ça veut dire une superposition des flux aussi qui s'ajoutent au déplacement. On se déplace, mais il y a aussi des informations qui se déplacent envers nous. On déplace des informations, on déplace de l'argent, on multiplie les réseaux de rencontres. Maintenant, certes, j'ai parlé d'en haut, mais certainement, je suis enchantée que mes collègues ici présentent des cas. Et ce qu'a fait Arthur est remarquable du fait qu'il a montré comment, en fait, c'est à l'œuvre. Et que finalement, ce n'est pas si facile que ça. Les pratiques, si vous voulez, montrent complètement autre chose. Nous, on est parti de cette vision-là. Qu'est-ce que se passe dans la réalité? Voilà, on va être une trentaine à montrer qu'est-ce que se passe. D'accord? Bon. On parle d'un concept plutôt valise, on va voir à l'intérieur qu'est-ce que se passe.